C'est l'heure de la chronique des apatrides anonymes. Simon, qui est avec vous au micro cette semaine, toujours à l'émission En profondeur sur les ondes de CKUT. Je vais vous parler de Gibraltar, ce petit microscopique territoire sur la Méditerranée, qui se retrouve exceptionnellement dans l'actualité cette semaine, et mon dossier principal aujourd'hui sur le Japon, donc l'accueil des personnes immigrantes, l'accueil des personnes réfugiées au Japon. C'est un cas assez particulier, vous allez voir, donc je vous en parle dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe à Gibraltar pour que je veuille en faire un sujet de chronique aujourd'hui? La tension a monté, une genre de guéguerre diplomatique. On est dans un contexte post-Brexit. Les habitants de Gibraltar, qui sont considérés comme des Britanniques, sont, je crois, des citoyens britanniques. Bref, c'est un territoire qui est géré par la Grande-Bretagne, par le Royaume-Uni, qui a voté à 95% contre le Brexit. Ce qui fait dire à l'Espagne, à Madrid, au gouvernement espagnol et aussi du côté de l'Union européenne qu'il serait peut-être temps de repartager les compétences et de repenser à la souveraineté de Gibraltar. Plusieurs scénarios ont été évoqués. Par exemple, c'est un concept un peu compliqué là, de co-souveraineté qui serait chapeautée par Bruxelles et gérée en alternance entre Londres et Madrid. Bref, on essaye un peu de tirer chacun la couverte de son côté. Donc, Bruxelles aimerait ramener Gibraltar dans le juron européen. Et les Britanniques disent non, c'est un territoire britannique, pas touche. Il y a même eu, tu sais, des populistes à la Boris Johnson, qui a les cheveux aussi jaunes que Donald Trump, si je me rappelle bien, mais qui est très connu en Grande-Bretagne pour ses propos à l'emporte-pièce, là, très, très souvent raciste, assez populiste. Il y a eu même un député qui a dit, je vais essayer de le citer, je crois que j'ai la citation aussi, mais qui dit « Bon, la souveraineté de Gibraltar ne changera pas et ne pourra pas changer sans le consentement du Royaume-Uni ». Et il y a Michael Howard, c'est ça son nom, qui est un député, un ancien dirigeant du Parti conservateur de Theresa May, l'actuelle première ministre, qui a affirmé que Mme May, la première ministre, serait prête à faire la guerre pour défendre le territoire, comme l'avait fait il y a 35 ans Margaret Thatcher contre l'Argentine à propos des îles Malouines. Donc, vous voyez comment des imbroglios frontaliers avec des relents de colonialistes, ça peut mener à de la violence assez extrême. On en a un exemple britannique, très britannique, ici. J'arrive au Japon, le dossier principal de ma chronique. Donc, peut-être peu de gens le savent, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'étais pas très au courant que le Japon était à ce point fermé à l'immigration. C'est assez hallucinant quand même. C'est un des pays au monde, je crois, qui est le plus fermé à l'accueil de personnes migrantes, à l'accueil de personnes réfugiées et à l'accueil de personnes immigrantes en général, même que ce soit immigration économique, immigrants investisseurs, même ce que nos gouvernements à nous, par exemple, cherchent, là, des immigrants qui ont de l'argent, c'est ça qu'ils veulent, qui sont éduqués, qui correspondent aux besoins de la main-d'œuvre. Même dans ces catégories-là, le Japon est très frileux. Et si on va vers les catégories immigrants économiques ou réfugiés, là, c'est carrément c'est la fermeture quasi complète. La seule catégorie de personnes immigrantes qui a augmenté dans les dernières années au Japon, c'est les travailleurs étrangers. Ils sont à peu près 1 million, principalement concentrés dans la région de Tokyo. Donc, à l'extérieur du Grand Tokyo, on trouvera très, très peu de personnes qui ne sont pas d'origine japonaise. Et quand je dis très peu, c'est très, très peu. Là. C'est comme un dixième de pourcent, peut-être. La population de travailleurs étrangers a certes augmenté dans les 4-5 dernières années, mais elle a rejoint le niveau auquel elle était avant la crise financière de 2008 et avant la catastrophe de Fukushima. Donc, ça reste quand même une petite population. On calcule qu'au Japon, il y a environ 1%, un peu plus d'1% de personnes immigrantes. Donc, pour un grand pays industrialisé, c'est le pays où se trouve le moins de personnes immigrantes. Je vais vous citer, c'est quand même un officiel du gouvernement, il s'appelle Akira Morita, il est directeur de l'Institut général de la population. L'Institut général de la population, je ne sais pas comment le transposer dans notre réalité administrative canadienne. Il n'y a pas de ministère de l'immigration au Japon, donc c'est peut-être qu'est-ce qui ferait office d'équivalent. Il n'y a pas non plus de politique d'immigration au Japon. Difficile à imaginer, mais c'est le cas. Donc je cite cet officiel du gouvernement, M. Morita. On craint que les étrangers acquièrent la nationalité japonaise. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation de la France. Donc la France qui est citée comme le contre-exemple à ne pas suivre. Il poursuit M. Morita pour justifier ou adoucir un peu des propos qui sont quand même un peu extrêmes. Il ajoute « Le Japon, de toute façon, n'est pas attirant pour les travailleurs immigrés. Ils peuvent aller partout sur la planète. Ils seront mieux payés qu'au Japon. Leur propre pays leur offrira bientôt le même salaire que le nôtre, de toute façon. » Donc, il semblerait qu'au Japon, bon, d'après les politiciens, d'après le nom, la population serait derrière eux et ne voudrait pas plus d'immigrants avec sondages à l'appui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Difficile à dire. Des sondages, c'est facile à manipuler. Donc, il y aurait que les milieux patronaux et quelques bureaucrates du ministère du Travail qui commenceraient à parler qu'il faudrait peut-être mettre sur pied une politique d'immigration. Actuellement, il y a une pénurie de la main-d'œuvre dans certains domaines. Donc, c'est évidemment ce qui justifie la volonté de certains organismes de vouloir mettre sur pied une politique d'immigration japonaise. Les demandes d'asile au Japon, moins de 1% sont acceptées. Et déjà, il y en a très peu qui sont formulées, qui sont déposées au Japon. L'année dernière, je vous rappelle qu'on est dans un contexte de crise migratoire gigantesque depuis plusieurs années. Donc l'année dernière, il y en a eu seulement 11 000 demandes d'asile qui ont été soumises au gouvernement japonais. C'est un record, non pas de baisse, mais c'est le plus grand nombre de demandes qui ont été déposées au Japon. Donc 11 000 l'année dernière et le gouvernement en a accepté 28, une de plus que l'année précédente. Donc 27 en 2015, 28 demandes d'asile acceptées sur 11 000 en 2016. Donc c'est des chiffres qui parlent quand même. Le nombre de personnes qui demandent le statut de réfugié chaque année au Japon, il doublerait pratiquement chaque année depuis un peu plus de 5 ans. Mais les autorités ne bronchent pas. Le taux de demande accepté reste toujours beaucoup en dessous du 1% année après année. Donc, que le système soit restrictif, tout le monde en convient, même les Japonais en conviennent, ils s'en cachent pas. Ils disent « c'est comme ça, c'est notre culture, c'est comme ça qu'on fonctionne au Japon, on est des insulaires, on a une certaine crainte de l'étranger, ne nous jugez pas pour ça ». Le Japon dit qu'il se conforme à la Convention des Nations Unies relative aux réfugiés, mais que son interprétation est différente. Donc, on joue un peu sur les mots. Je ne veux pas nous péter les bretelles. La plupart des autres pays industrialisés, dont le soi-disant Canada, sont aussi restrictifs que le Japon pour les demandes de refuge en général. Sauf que la plupart des pays industrialisés mettent sur pied des programmes spéciaux pour des situations particulières, des situations de guerre ou de famine. Quand il y a une situation, une crise humanitaire dans une région donnée, il va arriver qu'on mette sur pied un programme spécial, on va accueillir tant, on donne des cotons, on va accueillir, mettons, 10 000 ou 15 000 personnes réfugiées de telle région parce qu'il y a ce contexte particulier qui est extrêmement difficile. La plupart des pays tiennent des listes de pays jugés dangereux et des listes de pays jugés sûrs, donc toutes des choses que le Japon ne fait pas. Donc, dans la crise syrienne, par exemple, alors que le Canada et bien d'autres pays occidentaux, il suffisait d'être un résident fuyant la guerre pour être admissible au statut de réfugié. Le Japon, lui, a continué d'appliquer les critères habituels extrêmement stricts, c'est-à-dire exiger du demandeur de statut de réfugié, même s'il vient de la Syrie, qui prouve qu'il est personnellement ciblé par des belligérants, que c'est sa situation personnelle à lui qui fait en sorte que sa vie ou sa sécurité est en danger. Donc, la norme actuelle au Japon serait de répondre à une personne syrienne qui fait une demande de refuge, de lui dire que sa vie n'est pas en danger, que donc sa demande n'est pas viable, n'est pas valable. Je vais vous citer un autre officiel du gouvernement, M. Kimizuka. Je comprends que les pays occidentaux n'acceptent pas notre interprétation de la Convention, mais ce sont souvent des pays qui se sont construits sur l'immigration. Ce n'est pas le cas du Japon, qui n'est pas une société multiculturelle, mais monoculturelle, et les Japonais aiment que ce soit ainsi. Donc, encore une fois, on se justifie en disant « c'est l'opinion publique qui guide nos politiques ». Une source de critique envers le Japon qu'on entend souvent, c'est que contrairement au Canada, aux États-Unis et à bien d'autres pays d'Europe, le Japon ne souscrit pas au programme de réinstallation des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies, qui sélectionne des réfugiés sur place, c'est-à-dire dans des camps en Turquie, en Jordanie ou au Liban, ou sur les routes migratoires directement avec des genres de stands mobiles où on délivre des certificats de réfugiés aux personnes, ce qui leur permet ensuite de faire des demandes dans d'autres pays. Le Japon ne souscrit pas à cette politique-là. Toute demande d'asile au Japon doit être faite sur le sol japonais, ce qui évidemment limite grandement les possibilités pour les demandeurs venus de loin. Le Japon, c'est loin de tout. Géographiquement, c'est isolé, c'est une île. Ça fait très, très loin, très, très cher comme voyage pour une personne réfugiée qui vit dans une situation précaire, qui va de toute façon se faire refuser sa demande, puisque moins d'un pour cent, ben moins d'un pour cent, un pour 10 000, je pense, demande est acceptée au Japon, hein, demande de refuge. Alors évidemment, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de demandes qui sont faites au Japon. C'est découragé avant même que la demande soit effectuée. Et de toute façon, comment démontrer hors de tout doute que sa vie personnelle est spécifiquement en danger? Le fardeau de la preuve repose sur nous. Allô, je viens de la Syrie, ma vie n'est pas en danger? Bref. Donc, ben le Japon, évidemment, il essuie des critiques de la communauté internationale sur sa question, sur sa gestion, ben, de l'accueil des immigrants et de l'accueil des personnes réfugiées. Il va évoquer le plus souvent, ben, il y avait l'argument de l'opinion publique, dont je parlais tantôt, c'est pas nous qui décident, c'est vraiment la population qui souhaite que la société japonaise demeure pure. Il y a ça qui est évoqué, il y a le fait que, bon, le Japon est quand même un contributeur financier assez important au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc il donne plus en moyenne que les autres pays. Manière un peu de marchander sa passivité, sa fermeture. Ça me fait penser un peu à l'Europe qui donnait des milliards à la Turquie, qui conserve les réfugiés, fasse tout en sorte pour les retenir sur son sol afin d'éviter que les réfugiés prennent la route de l'Europe. Ou encore que l'Australie qui sous-traite la détention de ses immigrants dans des petites îles dans l'océan Indien. Donc un peu, c'est ça, c'est la marchandisation, c'est se laver la conscience en donnant de l'argent finalement. L'autre argument, donc l'opinion publique qui est contre l'immigration, donner de l'argent au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et l'autre argument qu'on invoque souvent pour justifier sa fermeture et pour pallier aux critiques, c'est que la vaste, 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 la quasi-totalité des demandes de statut de réfugié sont refusées. Bon, on n'expulse pas les gens, on leur donne un statut de protection temporaire en leur disant quand la situation sera stabilisée en Syrie ou dans la région d'origine, vous serez expulsés à ce moment-là, mais pas avant. Il y a quand même des voix discordantes au Japon. Donc, il y a quelques associations. Je vais vous parler de l'ONG Japan Association for Refugees. Je vais vous citer Eri Ishikawa. C'est une des porte-paroles de l'ONG. Donc, l'immigration est un mot très sensible ici, au point où le gouvernement évite même de l'utiliser en recourant à des synonymes. Elle refuse l'argument d'une opinion publique qui serait contre l'immigration. Donc, elle dit, ce n'est pas la population qui est fondamentalement réfractaire, ce n'est qu'une excuse. C'est aux politiciens de prendre le leadership et d'éduquer la population. Alors, écoutez, c'est ce qui va mettre un terme à la chronique des apatrides anonymes de cette semaine. C'est Simon qui était avec vous au micro. Dans 2 semaines, donc le lundi 24 avril, c'est Marie-Ève qui sera là. Donc, je ne sais pas si elle va poursuivre sur notre lancée de vous parler de d'autres choses que de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Donc, ça fait du bien de parler de d'autres régions du monde. J'étais content de vous parler du Japon aujourd'hui. Entre-temps, je vais vous souhaiter une excellente soirée à l'émission En profondeur sur les ondes de sécurité.